Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vais vous raconter l'affaire de la disparition de la famille Godard. Et à la fin, pardon, je vais vous laisser un peu en plan, un peu désarmé peut-être, avec beaucoup de questions. Et finalement, très peu de réponses. Qu'est-il arrivé au docteur Godard et à sa famille? Les a-t-il tous tués avant de se saborder en mer? Et alors, pourquoi? Et qui sème de ci, de là, des indices sur les plages de Bretagne?
Europe 1, Christophe Ondelat.
Nous sommes à Tilly-sur-Seule, en Normandie, et une famille normale s'apprête à faire sa rentrée. Tilly-sur-Seule, pour situer, c'est à 13 km de Bayeux, 21 km de Caen. J'insiste sur la famille normale, parce que ça commence toujours comme ça, un fait divers. Tout le monde est normal. Ça n'est qu'après, quand l'enquête commence, quand on commence à fouiller dans la vie des gens, qu'on découvre que non, ils n'étaient pas normaux, et que peut-être il n'existe pas de gens normaux, que chacun a sa part de secrets, plus ou moins gros, plus ou moins avouables. Et la famille qui nous intéresse aujourd'hui n'en manquait pas de secrets et de non-dits. Mais pour l'instant, donc, c'est un père normal, Yves Godard, qui emmène ses deux enfants pour un rap de vacances. On est à 5 jours de la rentrée des classes. Le mercredi 1er septembre 1999, à 8h45, il embarque la petite Camille, 6 ans, et le petit Marius, 4 ans, dans son minivan Volkswagen. La voisine qui attend dehors la camionnette du boulanger les salue d'un geste de la main. « Bonnes vacances !» Il est touchant, ce papa qui part en vacances avec ses deux petits-enfants, non? Yves Godard prend la direction de Saint-Malo, où il a loué un voilier pour une balade en mer de 5 jours. La voisine a bien remarqué que la maman, Marie-France, n'était pas du voyage, mais ça ne l'a pas étonnée. Elle déteste la voile. Le port de plaisance des Sablons, à Saint-Malo, est à environ 2 heures de route. Ponton E, emplacement 79. En arrivant, Yves Godard prend possession du bateau qu'il a loué jusqu'à dimanche. Le Nick, un voilier de presque 9 mètres. C'est une belle bête. Il faut dire que si sa femme n'aime pas la voile, Yves, lui, est un voileux, aguerri. Il a été moniteur de voile. Il est parfaitement capable de manœuvrer seul un gros bateau comme le Nick. Sachant qu'à 4 et 6 ans, il ne peut pas trop compter sur ses enfants, sauf peut-être pour mettre et enlever les parabattages, ces bouées qui protègent la coque. Et encore. Avec le loueur, il fait le tour du bateau, tandis que les enfants jouent sur le ponton. « Vous allez où ?»« Oh, on va faire un petit tour, je pense qu'on ira jusqu'à Perros-Guirec. » Perros-Guirec se trouve à environ 90 000 nautiques, 160 km, vers l'ouest. Il fait beau, aucune difficulté en vue. Avant d'embarquer, Yves Godard fait quelques courses, des produits de nettoyage pour le bateau, des bonbons pour les enfants et 2 bouteilles de whisky. Ah, ça c'est signe que le skipper Godard est un vieux loup de mer. Il ne carbure pas qu'à l'eau plate. Ensuite, le Nick quitte le port. Yves Godard est à la barre, les enfants sont sur le pont. Il fait beau sur la Manche, il y a du soleil, un vent léger de nord-nord-ouest, une mer assez calme. Il met le cap à l'ouest. Le lendemain, 2 septembre, la vedette des douanes, la Rance, aperçoit le Nick entre le cap d'Erquy et le cap Fréhel, un peu à l'ouest de Saint-Malo. Et les douaniers remarquent tout de suite que le bateau marche au moteur, voiles affalées, alors qu'il y a suffisamment de vent pour se passer de moteur. Les douaniers, qui sont essentiellement là pour traquer les trafiquants de drogue, trouve ça un peu bizarre. Ah, c'est vrai que l'été, on en voit des marins d'eau douce qui fonctionnent au moteur, des feignasses qui ont la flemme de hisser la grand voile. Mais au cas où, ils décident de contrôler le bateau. Leur vedette vient se mettre à couple, un douanier monte à bord. Le temps qu'Yves Godard aille chercher les papiers, il aperçoit la petite Camille, elle est là, allongée sur une banquette à l'intérieur. Elle dort. Sur le pont, il y a une housse de planche à voile. Ah, ça c'est pas banal. Le douanier racontera que ça lui a traversé l'esprit, pourvu que le skipper n'ait pas l'idée saugrenue d'aller faire de la planche à voile en laissant les enfants à bord. Le même douanier dira plus tard, quand on l'interrogera pour l'enquête, que ce type avait une tête à avoir jeté sa femme par-dessus bord. Une tête à avoir jeté sa femme par-dessus bord. Il devait avoir une drôle de tête. Prémonition ? En attendant, les papiers sont en ordre. Le Nick peut repartir. L'enquête montrera que dans les jours qui suivent, le Nick navigue entre Saint-Brieuc et Paimpol. On verra notamment les Godards à terre, au niveau de Lens-Bréhec. Ils sont descendus, ils ont acheté 2 gaufres au chocolat. Après, on ne sait pas. Mais au fil des jours, on va retrouver des indices très inquiétants. Le dimanche matin, veille de la rentrée des classes, à l'heure où les Godards étaient censés rentrer vers Saint-Malo, le chalutier Ascara aperçoit en pleine mer, à peu près au droit de Roscoff, un bateau pneumatique rouge à la dérive. Ça ressemble à une annexe, le genre de bateau gonflable que les plaisanciers utilisent pour aller de leur point de mouillage jusqu'à la grève. Les pêcheurs le remontent à bord. À l'intérieur, il y a juste un ciré jaune et dans une poche du ciré, un chéquier. Un chéquier au nom de Yves Godard. C'est très inquiétant. On imagine tout de suite un naufrage des plaisanciers qui n'ont pas pu atteindre l'annexe. On imagine un drame. Par radio, le chalutier prévient le CROSS, le centre de sauvetage, et communique le numéro d'immatriculation de l'annexe. C'est l'annexe du NIC, qui appartient à une société de location de Saint-Malo. Les gendarmes maritimes prennent contact avec le loueur. « Oui, un monsieur Godard !» a loué le bateau, jusqu'au 5. Il voulait faire une croisière avec ses 2 enfants, je crois, rien de particulier. Il avait l'air d'un marin confirmé. Mais le 5 au soir, le Nick ne rentre pas au port. Pour le coup, c'est vraiment inquiétant. Aucun signal de détresse n'a été lancé ces derniers jours. Aucun. Les gendarmes maritimes de Roscoff tentent de joindre le bateau par la VHF marine, la radio. Elle ne répond pas. Il lance un appel à tous les bateaux qui naviguent dans la zone. Personne n'a vu le Nick. Ce lundi 6 septembre, jour de la rentrée des classes, quand on fait l'appel au cours préparatoire à Silly-sur-Seul, Camille n'est pas là. Et à la maternelle, Marius aussi est absent. Disparu en mer avec leur papa. Dans les jours qui suivent, un Breguet Atlantique, l'avion de reconnaissance de la marine, quadrille la zone. Des vedettes de la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer, patrouillent le long de la côte. En vain. Et comme le loueur leur a dit que le père était seul à bord avec les enfants, il a été formel, hein. Il y avait 3 personnes, un homme et 2 enfants. Alors les gendarmes décident de prendre contact avec la mère. Ils appellent d'abord la maison de Silly-sur-Seul. Le téléphone sonne dans le vide. Mais pourquoi la mère ne s'est-elle pas inquiétée? Pourquoi n'a-t-elle pas donné l'alerte? Le mercredi 8 septembre, les gendarmes de la section de recherche de Rennes se déplacent à Tilly-sur-Seul, au domicile de la famille Godard. Ils sonnent. Pas de réponse. Alors, accompagnés du maire et d'un voisin, ils pénètrent dans la maison. Au premier coup d'œil, tout à l'heure, parfaitement normal. Le frigo est plein. Et les cartables sont là, posés, ils sont prêts pour la rentrée des classes. Sur la table de la cuisine, un mot, signé du père, Yves. On part quelques jours, on revient dimanche. Le mot est anodin, mais on peut quand même se demander si c'est une manière d'annoncer les choses à sa femme, comme si il n'en avait pas parlé avant, comme si c'était des vacances improvisées. C'est étrange, mais ça n'est rien à côté de ce qu'ils vont trouver à l'étage. Les gendarmes entrent dans la chambre des parents. Et sur le mur, ils aperçoivent 4 demi-cercles rouges, tracés avec ce qui semble être du sang. Ils s'approchent du lit. Ils retournent le matelas. Il y a une très grosse tache de sang. Ils découpent le matelas. Il est imbibé de sang sur quasiment toute l'épaisseur. Du sang, il y en a encore dans la salle de bain. Et sur le bord du lavabo, et sur un gant de toilette, et sur un plaid, et dans le lave-linge. C'est très inquiétant. Vu la quantité de sang, quelqu'un est au moins grièvement blessé. mais sans doute mort. On pense immédiatement à la mer. Au même moment, on retrouve le combi Volkswagen sur le port de plaisance des Sablons, à Saint-Malo. Les agents de sécurité sont intrigués. Il est garé sur ce parking depuis plusieurs jours, fenêtres ouvertes. La plaque d'immatriculation révèle que c'est le minibus de Yves Godard. À l'intérieur, il y a deux livres, un ticket de caisse, des jouets d'enfants, des compresses et deux ampoules de morphine vides. Et des traces de sang. Encore des traces de sang. Pas sur les sièges, pas sur les banquettes. Sur le sol. Comme si on avait transporté une personne couchée qui saignait, vivante ou morte. Ce sang, comme celui retrouvé dans la maison, il faut l'analyser et vite, et en extraire un profil ADN. On le comparera aux brosses à dents de toute la famille. Les brosses à dents, c'est, un peu comme les peignes, des stocks d'ADN. La salive, les cheveux, c'est là que se trouve notre carte d'identité génétique. Il faut une semaine pour faire les analyses et les comparaisons génétiques. Ça peut paraître un peu long, mais une semaine en réalité, compte tenu de l'encombrement des laboratoires, c'est un petit exploit, mais le mystère est trop grand pour attendre plus encore. Le 16 septembre, le labo rend son verdict qui vient confirmer les craintes. C'est le sang de la mère. C'est le sang de Marie-France. Et Marie-France, personne ne l'a vue, personne n'a plus de nouvelles d'elle depuis le 31 août, il y a plus de 15 jours. Ce jour-là, elle a parlé au téléphone avec sa fille aînée, née d'un premier mariage. À 17h, le 31, elle était encore vivante. À partir de ce moment-là, ben on n'est plus dans le cadre d'une disparition en mer. On ne parle plus d'un naufrage. On commence à parler d'un meurtre. Un mari qui aurait tué sa femme et qui se serait enfui avec ses deux enfants. Tué ? J'ai l'air d'aller un peu vite. Mais il y a tout ce sang et le corps n'a pas été retrouvé. La voisine répète qu'elle n'était pas dans la voiture le matin du départ. Et le loueur du bateau confirme qu'elle n'est pas montée à bord. Qu'il y avait un homme et deux enfants. C'est tout. Vous êtes sûr ? Oui, oui, je suis certain. Ah oui, il y avait aussi une planche à voile dans sa housse. Mais il n'y avait pas de femme. La planche à voile. Mais pourquoi diable avoir emporté une planche à voile à bord du voilier? Et si dans la housse, il n'y avait pas de planche? Et si dans la housse, il y avait un cadavre? Le cadavre de la mère. C'est tentant comme piste. Mais Yves Godard a pu aussi se débarrasser du corps avant d'embarquer, quelque part dans la campagne. Alors, on fouille les abords de la maison familiale des Godard.
En premier lieu, les abords immédiats de la maison du docteur Godard qui ont été fouillés par les gendarmes du groupement du Calvados. Les buissons et les fourrés ont été ratissés, les enclos visités, sans que l'on découvre la moindre trace du corps de Madame Godard. Les gendarmes se sont ensuite rendus près des étangs de Plancry, à une bonne quinzaine de kilomètres de la maison du docteur Godard. Là, ce sont six plongeurs qui, pendant une heure, ont passé au peigne fin un premier plan d'eau de 2 mètres de profondeur. Le commandant Gilbert Bourdon qui coordonne les opérations de plongée.
Nous avons effectué l'exploration du premier plan d'eau, bon, avec un résultat négatif pour aujourd'hui, avec bon, des moyens adaptés, un détecteur de métaux pour refaire la recherche au fond, 6 plongeurs et qui ont travaillé dans des conditions difficiles, hein, à tâtons, dans la vase, sans visibilité. Le niveau de l'eau s'est élevé d'une manière assez conséquente en raison des précipitations de ces derniers jours. Et puis bon, la température de l'eau, faut le dire, est assez fraîche. On a de l'eau à 6 degrés actuellement. Donc il faut être extrêmement méticuleux dans cette recherche.
D'autres étangs du même secteur seront inspectés dès demain et au total, les fouilles organisées sur une 60aine de points comme des bois, des étangs, des carrières ou des décharges devraient durer entre 1 et 2 mois. Chaque jour, elles mobiliseront entre 30 et 70 gendarmes. À Tilly-sur-Seul, dans le Calvados, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
L'enquête de voisinage ne donne rien non plus. Personne n'a vu quoi que ce soit. Personne n'a entendu quoi que ce soit d'intéressant. Le parquet de Saint-Malo ouvre maintenant une enquête pour homicide volontaire et lance un mandat d'arrêt international. Et les gendarmes, en fouillant dans la vie des Godard, vont trouver d'autres sujets d'inquiétude. Elle n'était pas si normale que ça, la famille Godard. Yves Yves et Marie-France se connaissent depuis la fin des années 80. Quand ils se sont rencontrés, ils étaient tous les deux déjà mariés, ils avaient tous les deux déjà des enfants. Ils ont divorcé, chacun dans leur coin, et ils ont commencé à vivre ensemble. Et puis Marie-France est tombée enceinte de la petite Camille, et en 94, après la naissance de la petite, ils se sont mariés. Marius est né 2 ans après. La petite famille s'est installée à Tilly-sur-Seul, dans une maison un peu à l'écart du village. Du coup, disent les gens du village, on les voyait surtout à l'école, quand ils venaient chercher les enfants. Manière de dire qu'ils n'étaient pas très intégrés, et même un peu distants. Et pour tout dire, un peu bizarre. Surtout lui. Elle, Marie-France, elle ne travaillait pas, elle s'occupait de ses enfants. Rien à dire. Mais lui, c'était un drôle d'oiseau. Il était médecin généraliste, à Caen. Mais un médecin un peu spécial. Un médecin qui, petit à petit, avait abandonné la médecine traditionnelle. Pour les médecines parallèles. Acupuncture, homéopathie, sophrologie. Et même les médecines très parallèles. Magnétisme, radiesthésie, hypnose. Attention, je ne suis pas en train de dire que le docteur Godard était un charlatan, d'autant qu'il avait une bonne clientèle, jusqu'à sa disparition. Et vous trouverez des tas de gens pour dire que c'était un très bon médecin. Mais disons que c'était un original, un peu comme son propre père, qui lui aussi était médecin, et qui, à la retraite, avait tout vendu pour partir faire un tour du monde en voilier, déjà, voyage au cours duquel il avait abandonné sa femme dans un port en Espagne. Les Godard, manifestement, sont adeptes du changement de vie radical. Et en grattant encore un peu, les gendarmes découvrent que le bon docteur Godard, le fils, était aussi membre d'une société secrète, une fraternité, l'ordre de la Rose-Croix. C'est un mouvement philosophique et initiatique chrétien, un temps considéré comme une secte. C'est à la Rose-Croix qu'il a commencé à se passionner pour la voyance et pour les pouvoirs spirituels. C'est à la Rose-Croix qu'il a participé à des conférences sur la réincarnation. Et c'est depuis qu'il utilisait l'hypnose dans ses activités de médecin. L'hypnose pour chercher les causes des maladies dans le passé de ses patients. L'hypnose pour parvenir à ce qu'on appelle une régression à la vie intra-utérine. Autrement dit, pour revenir à l'état de bébé. Là, je suis un peu obligé de m'arrêter. 2 secondes. Ce genre de pratique est très contesté. Très contesté. On est au bord de la manipulation mentale. Bref, le docteur Godard était un médecin très en marge de sa profession. D'ailleurs, en 92, il avait eu quelques soucis avec le Conseil de l'Ordre pour pratique illégale de la pharmacie, car il donnait à ses patients des médicaments qu'il fabriquait lui-même. Et c'est interdit, il avait écopé de 4 mois de suspension. Mais il y a une autre bizarrerie dans la vie du docteur Godard. Jusqu'à sa disparition, le docteur Yves Godard était le trésorier départemental de la CDCA, la Confédération de Défense des Commerçants et Artisans. Un syndicat qui lutte contre le trop-plein de charges chez les travailleurs indépendants, et les médecins sont des travailleurs indépendants. Un syndicat qui l'avait poussé, par exemple, à ne plus payer de cotisations à l'URSSAF, ni aux caisses de retraite, ni à l'assurance maladie. Au moment de sa disparition, il devait à ces organismes plus de 300 000 euros, et les huissiers commençaient à venir faire le siège de son cabinet. Bref, le docteur Godard était en rupture avec son milieu professionnel et avec l'administration française. Et sa femme, Marie-France, on s'aperçoit que dans cette enquête, elle ne suivait pas ses combats. Ça n'était pas une passionnariat. En revanche, on a retrouvé son journal intime. Elle voyait un psychothérapeute et elle avait peut-être un amant. Et ça, on ne pourra jamais le confirmer. Mais le couple battait de l'aile. Ça, c'est clair. Du coup, un scénario se dessine. Le docteur Yves Godard voulait partir à l'étranger pour recommencer une vie à zéro. Marie-France n'était pas d'accord. La dispute a viré au drame, il l'a tué, il est parti avec les enfants. Sauf que pour l'instant, ça n'est qu'une hypothèse, parce qu'il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de bateau. Ça ne va pas durer. Le samedi 2 octobre 1999, un mois après la disparition, une lettre anonyme parvient à la gendarmerie de Falaise. Il est écrit « Le docteur Godard est bien vivant, il vit en mer d'Irlande, sur l'île de Man. Le prendre au sérieux ».
La traque du docteur Godard se poursuit outre-Manche. Le médecin disparu avec ses enfants aurait été repéré il y a un mois sur l'île de Man. Les témoignages sont bien difficiles à recouper pour les enquêteurs qui pensent que le docteur est déjà en fuite ailleurs. Esther Lenneman.
Comme les pièces d'un puzzle, les premiers éléments d'une enquête criminelle semblent toujours un peu disparates. Et depuis leur arrivée à Douglas mardi soir, la tâche des trois gendarmes français consiste précisément à assembler des morceaux disjoints. Au départ donc, il y a le témoignage du propriétaire de l'hôtel Man Inn qui pense avoir accueilli pendant quelques jours le docteur Yves Godard et ses deux enfants. L'inspecteur Guy Picard dirige l'enquête côté britannique.
At the moment, we're not certain. We're speaking to other members of staff, the management at the hotel.
Pour le moment, nous ne sommes sûrs de rien. Nous parlons aux employés de l'hôtel, à la direction, pour avoir une description précise de ces gens. Et en même temps, nous cherchons à confirmer ces témoignages. Nous vérifions les vidéos des caméras de surveillance du port d'arrivée des ferries et de l'aéroport pour voir si on peut appuyer les témoignages par des images vidéo. Et puis nous enquêtons auprès des compagnies de location de voitures et des habitants de l'île. Et ce travail de fourmi commence à porter ses fruits. Diverses personnes ont déjà répondu à l'appel à témoins pour dire qu'elles pensaient avoir aperçu le médecin français. Le barman de l'hôtel Man Inn a déclaré aux enquêteurs qu'il l'avait vu quitter l'hôtel avec ses enfants en compagnie d'une femme blonde qui conduisait une Clio adaptée pour la conduite à gauche. Les policiers essayent actuellement de retrouver la femme et la voiture. Et le nom de Godard n'apparaissant pas dans les registres de l'hôtel, ils tentent aussi d'établir sous quel nom la famille voyage. Car une chose semble acquise, tous les témoignages datent de la mi-septembre. Yves Godard et ses enfants ont donc quitté l'île de Man depuis un bon mois. Londres, Esther Lenneman, Europe 1.
6 jours plus tard, deuxième lettre, encore plus inquiétante. Le docteur Godard est dans la région des îles Hébrides, à Lewis. Sauvez Marius et Camille. Sauvez Marius et Camille. Toute l'urgence est dans cette phrase. Ça tombe bien, les gendarmes sont à Man, ils ne sont pas loin. Ils prennent le ferry pour les îles Hébrides. Ça ne donnera rien non plus. Pendant ce temps, en France, l'enquête cherche à identifier le corbeau, celui qui a envoyé les deux lettres. Il a forcément léché le timbre. Il a donc laissé son empreinte ADN sous le timbre. Et effectivement, en décollant le timbre, on isole une trace ADN. On la passe au fichier. Ça ne matche pas, elle ne correspond pas à quelqu'un de fiché. Mais c'est une femme. L'ADN ne ment pas. Alors les gendarmes convoquent des dizaines de femmes et leur font faire des dictées en espérant reconnaître l'écriture. Rien de concluant. On fait des prélèvements ADN sur 300 proches de la famille Godard. Ça ne donne rien non plus. Dans cette affaire, les gendarmes n'ont pas fini de voyager. Car à partir de l'année 2000, le docteur Godard est signalé partout dans le monde. En 2000, à Phuket, en Thaïlande. En 2002, à Miami, en Floride. Puis en Chine, où il est censé faire de l'humanitaire. Jusqu'en Afrique du Sud, où on le signale en septembre 2004. À chaque fois, les gendarmes y vont, ils entendent les témoins, ils vérifient tout. Ça ne débouche pas. Et maintenant ? Maintenant, c'est la mer qui alimente l'enquête. Au gré des marées. Septembre 99, un cargo repêche un gilet de sauvetage du Nick au large de Cherbourg. Une semaine plus tard, nouvelle découverte en Angleterre.
Le mystère Godard reste entier, mais depuis hier, les enquêteurs ont un nouvel élément. Yves Godard, c'est ce médecin présenté comme marginal qui a disparu avec ses enfants au début du mois à bord d'un voilier. Il demeure introuvable, tout comme son épouse d'ailleurs. En revanche, le radeau de survie du bateau a lui été découvert hier, près des côtes sud de l'Angleterre.
Au début de l'année 2000, un chalutier qui croise au large de l'île de Bas trouve dans ses filets un sac. Et dans le sac, les permis de conduire d'Yves et de Marie-France, les cartes grises de leurs deux voitures, des chéquiers, des jumelles et un marteau. Et ce qui semble être tout le contenu du sac à main de Marie-France. Au début, on se dit que tout ça, le gilet, le canot de survie et maintenant le sac, tout ça vient de l'épave. Le bateau a coulé et il relâche un à un ses objets. Mais le gilet a été retrouvé au large de Guernesey, le radeau de survie sur une plage anglaise du Dorset et maintenant le sac au large de l'île de Bas. Normalement, quand un bateau fait naufrage, les courants marins emportent tous les débris dans la même direction. Là, on a plutôt l'impression qu'un petit poussé dissémine les objets pour faire croire à un naufrage. D'ailleurs, pour parler de naufrage, il nous faudrait maintenant des morceaux du bateau. Et ça, on n'en a aucun. Mais la mer n'a pas livré tous ses secrets. Le 6 juin 2000, les marins pêcheurs de l'Indomptable, un coquillier, remontent au milieu de la nuit un crâne humain, un crâne d'enfant, de petit enfant. C'est celui de Camille. Une comparaison ADN est effectuée à partir de sa brosse à dents. C'est elle. Camille est donc morte. 6 mois plus tard, en février 2001, sur l'île des Hébiens, au large de Saint-Malo, sur une plage, on ramasse la carte professionnelle d'Yves Godard, sa carte de médecin. 8 mois plus tard, sur la même plage, c'est une carte bancaire au nom d'Yves Godard qui réapparaît. Et 3 mois plus tard, encore une carte de crédit, toujours sur la même plage. Et la semaine suivante, un plongeur remonte une carte de plus, encore sur la même plage. Et en août, une 5e carte au même endroit. Et ce qui est étonnant avec ces cartes, outre le fait qu'elles apparaissent au compte-gouttes, c'est qu'elles ne sont pas abîmées. La puce n'est pas rouillée, n'est pas rongée par le sel. Le logo de la banque est parfaitement visible. Ces cartes ne sont pas restées dans l'eau depuis 2 ans, depuis la disparition du bateau. C'est impossible. Quelqu'un les dépose une par une sur la plage. C'est certain. Quelqu'un s'amuse avec les gendarmes. Quelqu'un qui tout de même dispose des affaires personnelles de la famille Godard. Quelqu'un, mais qui ? Le docteur Godard lui-même ? Un complice ?
Bonjour à tous, on a retrouvé la mallette du docteur Godard. C'est en tout cas le nom qui figure sur la valise. C'est une information Europe 1, une information du téléphone rouge. C'est un pêcheur qui a remonté ce matin dans ses filets l'attaché case du docteur. Benjamin Vincent vient de joindre ce pêcheur en pleine mer.
Je l'ai trouvé en pêchant mon appart dans le chalut et puis voilà, c'est tout. Quand j'ai ouvert le chalut, bah, elle était à l'intérieur. C'est une mallette qui est dure sur le pourtour et de chaque face, elle est ramollie, ça devait être en carton, elle est ramollie par l'eau, quoi.
Et vous pouvez me décrire exactement ce qui a marqué sur la mallette ?
Docteur Godard. Docteur Godard, en gros, avec un gros feutre.
Elle était fermée à clé ?
Non.
Et donc vous l'avez ouverte ?
Ah bah oui. Et à l'intérieur, il y a une carte marine.
Et la carte marine correspond à quelle région ?
La carte marine, c'est la carte d'atterrissage de Saint-Malo. C'est les cartes les plus précises qui existent pour rentrer ou sortir d'un endroit précis, quoi.
Et ça vous étonne pas qu'à l'intérieur, il n'y ait qu'une carte marine ?
Non, ça m'étonne pas. Enfin, non, j'en sais rien. Il y avait peut-être autre chose, mais je vois pas pourquoi elle serait ouverte et refermée toute seule. Hein.
Et vous avez réagi comment quand vous l'avez trouvée dans vos filets et quand vous avez vu le nom du docteur Godard sur la mallette ?
Ouf, ça m'a pas choqué, hein. Parce qu'apparemment, il y a déjà pas mal de choses qui ont été retrouvées dans le secteur. Ça fait une de plus.
Qu'est-ce que vous allez faire de la mallette maintenant ?
Ah ben là, je vais téléphoner la gendarmerie, c'est tout. Hein.
Vous pensez que ça peut aider l'enquête ?
Je ne sais pas, il faudrait qu'il la déplie, voir s'il y a des annotations dessus. Je me suis pas permis de le faire. Vu l'état de la carte, elle risque de déchirer en ouvrant, alors j'aime autant la laisser dans l'état où elle est.
Parce qu'elle est imbibée d'eau ?
Ah bah oui, tout est imbibé d'eau. Hein.
Est-ce que c'est dans cette zone que vos collègues avaient retrouvé justement des morceaux qui flottaient
Des morceaux humains, c'est quand même assez loin, je sais pas, moi ça doit être à 5-6 km de distance. Là je me trouve à 4000 de la côte. 4000, ça fait 8 km, quoi, grosso modo. Je peux me poser de questions, moi ce que je voudrais aujourd'hui c'est pêcher.
Finalement, les gendarmes pensent que cette valise était un canular. Décidément, dans ce dossier, on joue avec leurs nerfs. Ensuite, on ne va plus rien retrouver pendant 3 ans. Jusqu'au 16 septembre 2006, au large de l'île de Bas, encore, un pêcheur remonte dans son filet 2 grands os humains, un fémur et un morceau de tibia. L'analyse ADN est formelle, ces deux os appartiennent à Yves Godard.
Depuis 1999, on recherchait le docteur Yves Godard qui avait quitté Saint-Malo à bord d'un voilier. C'était au mois de septembre. On pensait qu'il était en Afrique du Sud. On pensait qu'il pouvait être aussi en Islande. Mais en septembre dernier, on a découvert un fémur et un tibia lui appartenant. Les os ont été repêchés au large de Roscoff dans le Finistère. Il n'y a aucun doute. Le procureur de la République de Saint-Malo, Jean-Luc Desport.
Quelles sont les certitudes de l'enquête ce soir, sachant qu'une information judiciaire avait été ouverte pour meurtre à l'époque? Est-ce que cette information tient toujours? Est-ce que l'action publique s'éteint?
Bien évidemment, nous allons, le juge d'instruction en charge de ce dossier va tout d'abord faire une nouvelle expertise pour avoir une deuxième confirmation, si besoin était, qu'il s'agit bien de restes humains du docteur Yves Godard. Et si tel est le cas, bien évidemment, l'action publique se trouvera éteinte du fait du décès de l'intéressé.
Est-ce qu'aujourd'hui, on pense que c'est un naufrage ou un drame familial, un crime ?
Je ne suis pas en mesure de pouvoir répondre à cette question, puisque nous n'avons pas, à ce jour, retrouvé en particulier ni le corps de Madame Godard, ni encore moins le bateau sur lequel Monsieur Godard et ses enfants avaient embarqué à Saint-Malo au début du mois de septembre.
Et oui, on avait ouvert une enquête pour homicide, on cherchait le docteur Godard qu'on soupçonnait d'avoir tué sa femme et ses enfants avant de disparaître. La découverte de ses ossements change tout. Le docteur Godard est mort. Pour la justice, un mort, ben ça peut pas être un assassin. Puisqu'il est mort, on arrête les frais, on arrête l'enquête. C'est fini. Rideau. Et nous, moi, vous, les gendarmes, eh ben on va rester avec des questions, sans réponse. Où est le corps de Marie-France? Où est l'arme du crime? Quelles sont les circonstances exactes de la disparition? Quel mobile? Où se trouve le Nick? Qui est le corbeau? Qui distribue des indices? Qui sème des cartes sur les plages? Et pourquoi? Évidemment, certains ont leur idée. Le journaliste Éric Lemasson, dans son livre « L'assassinat du docteur Godard », paru en 2011, avance une thèse. Pour lui, le docteur Godard a finalement été assassiné. Il aurait tué sa femme, qui ne voulait pas le suivre dans sa cavale, dans son projet de changer de vie. Mais il y aurait une affaire dans l'affaire, car il avait préparé son départ, sans doute avec ses amis du syndicat des indépendants. Et il avait planqué de l'argent pour sa cavale, sur un compte, dans une banque de l'île de Man, paradis fiscal. Mais quand il est arrivé à Man, le compte était quasiment vide. C'était une escroquerie, on lui avait piqué son pognon. Alors il a rué dans les brancards, peut-être, protesté auprès de ses amis, ceux qui l'avaient aidé à ouvrir ce compte. Ce sont eux qui l'auraient éliminé avec ses enfants. Bon, pourquoi pas? C'est un scénario, mais le scénario le plus probable est beaucoup plus simple que ça. Le docteur Godard avait accumulé les colères, colère contre la médecine, son métier, colère contre le système fiscal, contre les charges sociales. Pendant des années, il s'est révolté. Et puis à un moment, il est arrivé au bout de sa révolte. Ça ne pouvait plus continuer comme ça. Alors il a loué le voilier sans en parler à sa femme. Évidemment, on ne saura jamais si à ce moment-là, il a le projet de fuir ou de se suicider avec femme et enfant. En tout cas, Marie-France ne découvre ce projet de départ en bateau que la veille du départ. Et encore la veille au soir, puisque elle appelle sa fille aînée au téléphone la veille et qu'elle ne lui en parle pas. Elle n'était pas au courant, elle ne veut pas partir. Il la tue. Il met le corps dans la housse de la planche à voile, il prend la mer avec les enfants et à un moment donné, quelques coups de hache, peut-être, ou de marteau sur la coque du bateau, il se saborde, le bateau coule et voilà. C'est le scénario le plus probable. Il bute sur deux points. D'abord, l'épave est introuvable. On n'a pas retrouvé le Nick, ni entier, ni en morceaux. Et puis, il y a cette affaire de carte de crédit. Si le docteur s'est suicidé avec ses enfants, alors qui joue les petits poussés en faisant réapparaître les cartes une par une? Peut-être simplement quelqu'un qui est tombé sur les affaires des Godard dans les jours qui ont suivi la disparition et qui, depuis, s'amuse à rendre les gendarmes chèvres. À moins qu'on retrouve le corps de Marie-France, qu'elle soit enterrée quelque part. En janvier 2007, rebondissement. On a peut-être retrouvé le corps de Marie-France. Un corbeau a envoyé une lettre aux gendarmes. il ferait bien de s'intéresser à des ossements dans le cimetière de Lingère, pas très loin de Tilly-sur-Seule. Des ossements. Les gendarmes vont au cimetière. Et dans un coin, effectivement, à l'endroit indiqué par le corbeau, il y a un crâne et des os, en vrac. Ils attendent les résultats des analyses ADN. Ça n'est pas le corps de Marie-France. Il s'agit probablement d'os retirés d'une tombe par un fossoyeur qui les a oubliés là. On s'est encore moqué d'eux. Et ça continue. En 2008, quand on retrouve toujours sur la même plage de l'île des Ébiens, une carte. Encore une carte appartenant au docteur Godard. Cette fois-ci, c'est une carte d'assurance. Dans le jeu de piste alimenté on ne sait pas par qui, ce sera le dernier indice. Depuis, plus rien. D'ailleurs, depuis 2012, il n'y a plus d'enquête. Plus personne ne travaille sur ce dossier, puisque le juge d'instruction a rendu ce qu'on appelle une ordonnance de non-lieu. On a rangé le dossier d'enquête, épais de 30 tomes, c'est énorme, dans les archives du palais de justice de Caen. Sauf rebondissement, on ne le rouvrira pas. Dernier acte en date, il date de 2015. Le tribunal de grande instance de Caen a rendu ce qu'on appelle un jugement de déclaration d'absence. Ça concerne Marie-France et Marius Godard. On n'a jamais retrouvé leur corps. Mais en droit, pour l'état civil, ils sont déclarés morts.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.